Amis de Radio Occitanie de la poésie, bonsoir. Les poètes, bonjour. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors, je vais consacrer cette heure de poésie à une femme poète que j'aime beaucoup, qui est Marie-Josée Christian. Mais au préalable, je voudrais simplement vous signaler la parution de deux ouvrages. Alors bien sûr, j'aurais pu en choisir beaucoup plus. Je le ferai, j'espère, au fur et à mesure des émissions, car il ne faut pas croire que la poésie est en train de se tarir, comme les médias peut-être le laisseraient entrevoir. Loin de là, il y a une frénésie, je dirais même, de publications de haut niveau, actuellement, dans la poésie contemporaine. Et en particulier, il y a des revues de poésie. Alors là, mea culpa, il ne se trouve que complètement submergé par les livres de poésie, les recueils, mais des livres souvent qui ont une centaine ou 150 pages, et qui arrivent en abondance, et qui sont des livres qu'il faut lire. Si on veut vraiment connaître ce qui se passe dans notre monde contemporain, dans le monde de la poésie, j'ai, j'avoue, totalement négligé les revues. Or, une revue comme Diérèse, par exemple, son dernier numéro était un numéro très volumineux, comme d'habitude, avec un travail absolument époustouflant, et j'avoue ne pas en avoir rendu compte, ce que j'espère pouvoir faire dans les semaines qui arrivent. Il n'est jamais trop tard pour réparer, surtout en cette matière où en définitive la poésie est intemporelle. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire quand même, c'est que malgré cette abondance, pour ne pas dire cette surabondance de revues de poésie, à telle enseigne qu'on n'arrive plus à les lire. S'il faut lire Décharge, s'il faut lire Friche, s'il faut lire les numéros de multiples. S'il faut lire l'ensemble des revues de poésie, eh bien, vous n'allez faire que ça. Et dans ce paysage, qui est donc un paysage et un secteur que l'on pourrait dire quand même encombré, il est extraordinaire de voir que surgissent des revues, et de revues encore, je pense à Nouveau Délit, par exemple, dont effectivement, j'avoue, j'ai toujours rendu compte ici, il y a des revues qui naissent. Alors, la dernière dont j'ai appris l'existence est une revue également d'une très belle façon, qui est une revue qui fait une centaine de pages, donc très, très abondante, très bien illustrée, très bien mise en page, avec des articles vraiment de haut vol. Une revue vraiment qui tient franchement la route et qui nous coûte d'ailleurs le numéro que 5 euros. 5 euros, cette revue s'appelle Revue, REVU, la revue de poésie snob et élitiste. Et elle en est à son numéro 7. Il a donc fallu que j'attende le numéro 7 pour m'apercevoir de son existence. Et je m'en suis aperçu de la façon très simple, c'est que cette revue consacre souvent une chronique, qui est toujours bien faite, à les revues anciennes ou les revues qui ont disparu. Et comme j'avais commis deux revues dans les années 80 et 90, la première s'appelait Poésie toute et la deuxième Carnet des libellules, eh bien cette revue rencontre de cette parution de mes Carnets des libellules, où il y a eu, je crois, 7 ou 8 numéros. Et il y a un article donc qui est consacré et qui dit ceci. Il parle du titre Carnet des libellules, nom ô combien poétique, mais fruit du hasard donc, puisque cela vient du fait que j'habite rue des Libellules à Toulouse. La poésie fait bien les choses. Ce qui n'est pas dû au hasard, ce sont bien les plumes que cette revue a agglomérées et partagées à ses lecteurs au long de ses 4 années d'existence. Des plumes avec l'accent du Sud-Ouest, bien souvent, Michel Cozem, le fondateur de la revue Encre Vive, Casimir Pratt, Michel Baglin, Claude Saguet, Gilles Ladd ou Georges Catalot. Mais pas que. Ayant en quelque sorte pris le relais de la revue Poésie Toute, 1980-1988, les carnets de libellules avaient avant tout pour vocation de mettre en lumière toutes les formes de la poésie contemporaine de l'époque. La seule ligne éditoriale était de rassembler des poètes qui, par leur façon d'habiter poétiquement le monde, étaient dans la fraternité de ce monde difficile, mais prodigieusement beau. Outre les noms cités précédemment, on découvrit dans ces pages Pierre Béranger Biscaye, Simone Roussel, Michel-François Lavaur, Daniel Abel et Michel Écart Elial, ainsi que les premiers poètes vivants d'Israël publiés en français. Voilà ce que disait, entre autres, donc cet article sur le carnet des libellules. Voilà, je m'aperçois malheureusement que bien des poètes, je pense à Claude Saguet, à Michel Baglin, à Michel-François Lavaur, qui ne sont plus de ce monde, malheureusement. En tout cas, c'est une revue à connaître. Vous pouvez vous y abonner. Voici ce que dit l'animateur de cette revue. La naissance de revue. Revue de la poésie, la revue de poésie snob et élitiste est née sur un pari. Rien d'étonnant à cela. Il faut une certaine dose d'effronterie pour créer une revue en ces temps de flux, d'informations, mais de reflux papier. Elle est surtout née dans un sillage, celui du mot MANT, Club de poésie, mis sur pied au CCAN, le CCAN étant le centre culturel autogéré de Nancy, en 2013, par une bande d'étudiants de la faculté de lettres et sciences humaines. Lors de sa deuxième année d'existence, il fut question d'aller plus loin que les lectures et les poèmes noircis en direct et en commun un lundi soir par semaine. Ainsi est né un fanzine, 9 minutes 34, auscultation d'appartement, vie et mort, un seul numéro en octobre 2013. Ainsi va naître une revue, car dans la foulée, Franck Doyen, coordinateur du festival Poéma, proposa aux membres du MoMan, en deux mots, le mot, et puis MAN, M-E-N-T, de sortir en premier numéro à l'occasion de l'inauguration du festival en mars 2016 au CCM, ce fameux centre culturel. Alors, cette fois-ci, le CCM, c'est le centre culturel André Malraux. Hein. Il y avait le centre culturel autogéré de Nancy, CCAN, et puis le CCM. Lui, il est à Vendeuvre, c'est dans le 54. Paris tenu, revue, donc le nom de cette revue de poésie, sans le, revue, en chair et en papier, qui avait trouvé son premier stand et son premier public. Mais alors, pourquoi un tel nom? Outre bien sûr le jeu de mots revue, revue, sans le, il s'agissait pour ses concepteurs d'envisager deux choses. D'abord, l'envie de faire voir à nouveau de la poésie dans l'espace public, mais aussi de revoir, au sens de reconsidérer, de porter un nouveau regard, le champ de la poésie contemporaine, comme pourrait en témoigner une expression comme « revue et corrigée », même s'il ne s'agit pas, dans ces pages, de corriger, mais bien plutôt de corriger, revue et partager, pourrions-nous dire. Quant à l'adjonction « la revue de poésie snob et élitiste », en guise de sous-titre, il s'agit bien sûr de poser sa patte d'emblée entre premier et second degré. Cette devise permet de s'accorder sur une teneur pointue, gage de sérieux, mais aussi sur une certaine prise de recul et un intérêt notoire pour l'humour. Voilà. Donc je vous invite à prendre connaissance de cette revue, au moins demander le premier numéro, vous abonner, hein, puisque vraiment c'est tout à fait intéressant, surtout si vous écrivez. Vous pourrez ensuite proposer des poèmes à cette revue. Alors, il y a un site internet qui est https://, association revue sans e et tout à la suite.com. Et on peut trouver également cette fameuse revue sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, et même s'abonner à la lettre d'information de revue. Voilà, vous aurez les références précises sur notre site, lespoètes.site. Voilà, alors je vais quand même vous dire combien coûte l'abonnement à cette revue. Excusez-moi, mais je ne me souviens plus. Alors, l'abonnement, très curieux parce que il faut chercher pour le savoir. Bon, écoutez, vous le trouverez sur notre site. J'aurai l'occasion d'ici là de le trouver. Alors, je voudrais quand même lire dans cette revue un des poèmes d'un poète marocain avec lequel nous avons eu le plaisir, auquel nous avons eu le plaisir de consacrer une émission. Il s'agit de Khalid El Morabetti. Khalid El Morabetti, que nous saluons et qui fait paraître l'un de ses textes que je vais vous lire. La réponse dans la chambre froide. Ce qui ne me tue pas me rend stupide. Ça m'oblige à la redire. Ça m'oblige à la refaire. Je mets le point d'interrogation avant la question. Sérieusement, c'est pas mal. Cracher des os et des plumes, c'est un projet pas mal. Ce qui me tue me rend pas mal. Un fantôme logique. Normal. Pas mal. Il faut plus d'espace. Dévorer toute la décoration intérieure et le remplacer par de la visite. Ce qui me tue me rend une nouvelle architecture. Il faut du ciment et du sable pour renforcer le dos, la carapace, l'ouverture. Ce qui me tue me rend une nouvelle structure. Ce qui me tue me rend une nouvelle créature. La réponse, la question, le visiteur. Nous sommes dans l'objet, mais nous sommes libres. Khalid El Morabetti, voyez à quel point vraiment nous sommes là au cœur de la poésie d'expression française contemporaine. Donc merci à des poètes comme lui de faire rayonner cette langue française dans son pays, le Maroc. Et puis je vais vous lire aussi un texte de Anna Leader. C'est une poète donc de langue anglaise. Et il y a évidemment le poème en anglais qui est publié dans cette revue, mais je vais vous lire la traduction. One trium perfectum. Je ne suis que peu loyal à ce qui existe, exige ma loyauté. Je suis plutôt promise à de sombres, fines branches contre le ciel, à des crépuscules indifférents, aux amours des autres. Je me consacrerai volontiers à toute poète qui aurait bruyamment et publiquement renoncé à son culte. Beaucoup dans ma génération ne mourraient pas pour un pays, ne feraient pas de service militaire. C'est un luxe voluptueux. J'ai trois passeports. J'en tire plaisir, comme des symboles, mais n'en ressens aucune obligation profonde. Ma triple nationalité est luxueuse et voluptueuse. Si je devais mourir pour quelqu'un, pour qui d'autre que ma sœur, autre membre de notre minuscule nation familiale, son patriotisme ne s'étend pas à notre patronyme, qu'elle changera quand elle se mariera. La modification sera faite dans trois passeports. Ma sœur a plus de fierté nationale que moi. Diligente, elle avale les nouvelles du jour et digère le mal du pays. Je suis reconnaissante pour les dépenses nationales de santé et de culture. Je chéris les choses que le Luxembourg chérie. J'apprécie le peu qu'il demande en retour. J'ai voté par correspondance cette année. Ça me tiendra à cœur, mais plus encore, me tiennent à cœur mes luxes voluptueux, comme ce corps, quelle décadence, et cette vie, et amasser trois passeports pour en faire des entames de conversation dans les soirées américaines où tous les convives ne parlent qu'une langue. Voilà, je tenais à lire ce texte. Anna Leader, il est effectivement inclus dans un chapitre de cette revue qui parle du Luxembourg. Voilà, très bien donc d'avoir mis en exergue que les Américains ne parlent qu'une langue et qui voudraient surtout qu'on parle la leur. Donc revue, la revue de poésie snobédiétiste qui vous coûtera 5 euros. L'abonnement est à voir sur leur site. Sur leur site où vous pouvez leur écrire, je pense que c'est 59 rue de Voltaire, 54 520 à Laxou, Laxou. Et vous pouvez prendre contact par mail, le mail étant revue, REVU, la revue, la LEA, revue, alors cette fois-ci revue avec un E, le tout à la suite, arrobase. gmail.com. Voilà. Donc, à suivre, nous vous rendrons compte, j'espère, des prochains numéros. Alors, je voulais aussi, mais avant quand même, vous signaler que le 16 janvier, nous aurons ici une émission avec Jean-Luc Pouliquen, dont je vais vous parler tout à l'heure. Ceci à 20h, mais avant, pour les Toulousains. À 17h30, il y a un événement poétique majeur pour Toulouse. C'est la conférence de Jean-Pierre Siméon, donc à 17h30 à l'hôtel des Césars, dans la salle Climent Cizor de l'Académie des Jeux Floraux. Conférence totalement gratuite de Jean-Pierre Siméon sur La poésie sauvera le monde. Vous savez que La poésie sauvera le monde est le titre d'un de ses essais dont nous avons parlé ici. Je vous invite d'ailleurs à revoir sur notre site lespoètes.site l'émission qui y est consacrée à Jean-Pierre Siméon. Il y en a plusieurs, et en particulier l'émission qui est consacrée à ce livre, La poésie sauvera le monde, et à vous rendre, bien entendu, à l'hôtel des Césars pour cet événement important, puisque, à l'issue de cette conférence passionnante, il sera remis ses lettres de maîtrise de l'Académie des Jeux Floraux à Jean-Pierre Siméon. Je rappelle que Jean-Pierre Siméon est un de nos plus grands poètes français et dirige actuellement, après avoir dirigé le Printemps des Poètes pendant de longues années, il dirige actuellement la collection Poésie des éditions Gallimard. Voilà, donc un événement important, à l'issue d'ailleurs de sa remise de lettres de maîtrise. Donc il sera installé dans cette Académie des Jeux Floraux, dont il fera à ce moment-là évidemment partie pleinement. Il y aura une vente dédicace de ses livres qui sera assurée par la librairie Ombre Blanche. Alors c'est le jeudi 16 janvier à 17h30, à retenir absolument. Et à 20h, nous aurons le plaisir d'avoir Jean-Luc Pouliquen. Jean-Luc Pouliquen, poète, essayiste, dont nous avons ici toujours rendu compte de ses publications. Nous avons eu le plaisir déjà de faire une émission avec lui. Jean-Luc Pouliquen, qui fait paraître un dernier ouvrage qui s'appelle Dans le miroir des livres. Dans le miroir des livres. Alors, vous pouvez commander cet ouvrage, je pense, tout simplement par Amazon. Hein. C'est donc très commode. Vous allez sur Amazon et vous mettez Jean-Luc Pouliquen dans le miroir des livres et vous pouvez commander ce livre. Donc, d'ailleurs, je suis désolé, mais j'ignore le prix. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? D'une braderie de livres où étaient proposés à la vente plusieurs milliers d'ouvrages, Jean-Luc Pouliquen a rapporté 12 titres. Il va s'appliquer à raconter ce qui le rattache à chacun d'entre eux, à dire ce qu'il a attiré dans la Grèce antique et le cubisme chez Agrippa d'Aubigné, chez Robert Louis Stevenson, chez Léon Tolstoï, chez Guillaume Apollinaire, chez Francis Jammes, chez les poètes de l'école de Rochefort, chez Marie-Noël, chez Pierre-Emmanuel, ainsi que les écrivains diplomates. Donc, de chapitre en chapitre, il va composer ainsi un miroir dans lequel se reflète son itinéraire de poète. Voilà. Un livre vraiment passionnant. On en parlera avec lui, puisque nous aurons le plaisir de l'avoir. Elle va faire une émission avec lui donc le 16 janvier. Mais je crois que c'est très important. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est peut-être le choix des auteurs qui correspond, alors absolument, je pense, moi je me reconnais totalement dans ce choix. Hein. Donc il y a peut-être là quelque chose à fouiller sur le fait que peut-être les gens de notre génération, c'est-à-dire les années 50 ou la fin des années 40 comme moi, ont été effectivement marqués par cette culture poétique hein, qui va de la Grèce antique à Agrippa d'Aubigné, bien sûr, mais aussi donc à Tolstoï, l'Apollinaire, les poètes d'école Rochefort qui a beaucoup marqué, Pierre-Emmanuel, hein, qui est béarnais et qui est un poète qui a beaucoup marqué, surtout dans les années 80. Tous ces poètes-là nous ont beaucoup marqués. Et je crois que c'est bien de pouvoir retrouver René Guécadeau, par exemple, de pouvoir le retrouver avec ce bonheur, ce plaisir, cette volupté, je dirais, dans ce livre, dans le miroir des livres, Jean-Luc Pouliquen. Je vous invite à commander sur Amazon et puis nous en parlerons donc à ce micro le 16 janvier. Voilà pour les annonces. Alors je voudrais maintenant, vous savez, il y a une phrase de Pessoa que j'ai souvent en tête et qui dit: pour être grand, sois entier, mets tout ce que tu es dans tout ce que tu fais. Voilà. C'est un principe, un précepte que beaucoup de poètes mettent dans leurs écrits, dans leurs créations. Et c'est le cas, je crois, de Marie-Josée Christian. Marie-Josée Christian, dont je voulais parler depuis longtemps. Et je le fais ce soir, aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, pour parler de ce livre, L'affolement du sang, un très beau livre, dans tous les sens du terme, puisque c'est un livre avec des encres d'André Guenoun, des encres qui sont vraiment absolument prodigieuses, je trouve, dans une mise en page qui est parfaite, qui est vraiment un livre très, très agréable. Qui a pour titre donc L'affolement du sang, et c'est publié dans la collection Poésie des éditions Almanach. Cela coûte 19 euros. Alors, Marie-Josée Christian, elle est née en 1957, donc elle appartient malgré tout à cette génération de Jean-Luc Pouliquen, hein, qui va se reconnaître certainement dans ce miroir de livres. Ce miroir des livres dont parle Jean-Luc Pouliquen, et je pense qu'elle doit avoir à peu près les mêmes attaches, avait peut-être aussi, parce que elle vit et elle travaille en Bretagne, avait peut-être aussi, en plus, les grands poètes bretons, en particulier les grands poètes bretons, Max Jacob, Armand Robin, du XXe siècle, et qui ont marqué quand même la poésie contemporaine bretonne. Alors Marie-Josée Christian, elle a publié de nombreux recueils, et puis elle anime elle aussi une revue dont j'ai parlé ici et qu'il faut aussi connaître. D'ailleurs, il y a un numéro de Spéred Gouez qui lui est consacré. La revue s'appelle Spéred Gouez, Spéred Spered, plus loin Gouez, G majuscule O-U-E-Z. Spéred Gouez, ça veut dire l'esprit sauvage, qu'elle a fondé à Carhaix, donc en Bretagne, en 1991. Marie-Josée Christian a reçu le Grand Prix international de poésie francophone en 2016 pour l'ensemble de son œuvre. Voilà, il y a des encres, je vous dis, qui m'ont beaucoup marqué. Je trouve vraiment qu'elles sont lumineuses et parlantes, ces encres, d'un certain André Guénoun, lui qui est né en 1949 en Algérie. Je suppose que les couleurs lui viennent aussi de cela, d'avoir vécu en Algérie. Il vit et travaille à Paris, mais après avoir beaucoup pratiqué la peinture, il œuvre aujourd'hui essentiellement avec les encres. Sur toile ou papier, bien qu'explorant les limites de l'abstraction, ses formes, tout en transparence, expriment un univers organique se déployant sur la surface de son support comme par prolifération. Alors il y a une préface à ce livre, et qui mieux que le préfacier, surtout lorsque le préfacier s'appelle Jean-François Mattei, que c'est un des grands poètes français également, Jean-François Mattei, je pense. J'ai eu d'ailleurs le plaisir de faire des critiques de ses livres de poésie pour la revue Diérèse, en son temps, et qui a fait donc cette préface à ce livre, Affolement du sang, de Marie-Josée Christian. Voici ce qu'il dit, et je pense vous le lire en entier. Quand un livre de poésie est publié, il est d'abord offert à l'entière liberté de lecture de ceux qui l'ont en main. De ce fait, les préfaces m'ont toujours paru susceptibles de limiter cette liberté d'interprétation en l'orientant par une lecture antérieure qui ferait autorité. Sauf, comme dans le cas présent, ce livre risque sérieusement l'incompréhension si on ignore de quel terreau, entre guillemets, il provient. Tous les poèmes d'affolement du sang doivent leur origine à ce que Marie-Josée Christian, dans le corps de l'ouvrage, écrit sous forme d'une dédicace courageusement ironique à Vaquez, l'ami fidèle. Qui est Vaquez? Un médecin français, 1860-1936, le premier à avoir décrit une maladie du sang à laquelle on a donné son nom et autrement appelée polyglobulie. Maladie orpheline, caractérisée par un dysfonctionnement de la moelle osseuse dans sa production de globules rouges. Il en résulte une prolifération de ces globules et bien entendu, pour le malade, d'importants risques cardiaques, vasculaires, etc. La lourdeur de traitements difficiles à doser, la fatigue, des vertiges et autres symptômes font entrer la vie dans un champ de bataille comparable à celui où luttent les cancéreux. C'est de cette maladie orpheline que Marie-Josée Christian est atteinte. On peut d'abord saluer dans son livre la pertinence du titre. Et on lit chaque page comme celle d'un journal sans date de sa pénible confrontation avec la maladie. Nul pathos, pas d'apitoiement, mais une constante mise à jour des pertes, des éloignements du monde naturel et humain, des questions, des angoisses qui font basculer sa vie dans la hantise de la déchéance et de la mort. Mais si la lumière a baissé, les mots resserrés dans des poèmes brefs gardent, comme de vives étincelles, de quoi éclairer de leur force lapidaire les moments de faiblesse, la détresse. On pourrait se demander pourquoi c'est un livre de poèmes plutôt qu'un journal qui a été choisi par l'auteur pour suivre l'évolution de sa situation. Marie-Josée Christian répond à cette question dès la fin du premier poème. Seul le poème est digne du désespoir. Et de fait, dans sa vie devenue une ligne brisée, seul le poème, par sa densité, peut capter à vif l'essentiel de ce qui est ressenti dans les moments les plus intenses de la souffrance, aussi bien physique que morale, et en propager l'onde de choc. Au lecteur désormais de découvrir dans cet ensemble crépusculaire la variété des approches de la saisie du mal. Pour terminer cette brève préface, je voudrais entrouvrir la porte de ce livre par un poème de Marie-Josée qui, entre guillemets, donne le ton. Voici ce poème. Lasse des jours, lasse des nuits, je porte l'abîme qui prend ma substance. J'efface la marge de l'espérance, aucune promesse ne m'attend. Qu'au moins l'attente, la promesse d'être lu au plus près, d'une lecture semblable à une amitié qui accompagne, comprend et entoure. Jean-François Mathé a signé cette préface. Voilà. Alors, évidemment, vous avez compris qu'il y a des parentés, la parenté immédiate quand on lit cette préface qui. Il fallait le lire parce que ça explique en définitive, ça donne, ça colore tout ce livre. J'ai pensé à Brigitte Maillard qui elle aussi a fait de sa démarche poétique une démarche aussi de vie, mais de vie au sens exact du mot. Et je pense que la démarche de Marie-Josée Christian ainsi est aussi une démarche de vie. C'est par la poésie, grâce à la poésie, qu'elle va rassembler cette vie dans la lutte, cette lutte pour la survie. Mais ce ne sera pas une survie, puisque par cette création poétique, elle va bien au-delà et elle est de plein pied, je dirais, dans la vraie vie, qui est la vie créatrice. Voilà. Alors je vais dans les minutes qui suivent, et sans interruption, je vais vous lire des extraits de ce livre, qui est un livre, je pense, qui est un livre marquant, qu'il faut avoir lu, et qui, j'espère, marquera peut-être aussi cette période de la poésie. D'expression française. Et puis tout d'abord, je vais, puisque c'est Jean-François Mathé qui a fait cette préface, la préface sombre, sobre, mais qui dit l'essentiel, sans lequel, bien sûr, on passera à côté. Il y a écrit un poème à Jean-François Mathé que voici. Je touche ma mort à chaque instant comme une effraction. L'éphémère est ma résurrection. Voilà, extraordinaire. L'éphémère est ma résurrection. Donc là aussi une poésie, vous allez voir une poésie qui est quand même une poésie tout à fait. On économise tous les mots. Une poésie vraiment d'une densité extrême, extrême. Il n'y a, je dirais qu'il n'y a pas, il n'y a pas un article, il n'y a rien d'inutile. C'était élagué au plus près de l'arbre, pour que l'arbre puisse repartir, qu'il n'y ait pas de sève inutile, que toute la sève soit employée pour une nouvelle frondaison. Poème absent. Alors il y a en exergue ce vers d'Adonis, seul le désespoir est digne de l'amour, ce qui a été repris dans la préface que je vous ai lu, et elle dit aussi, Mireille Farguier-Caruso, dans Un long paysage, Marie-Josée Chrétien a mis en exergue également cette phrase de Mireille Farguier-Caruso, Seule l'absence est fidèle. Terrible, seule l'absence est fidèle. On entend le souffle que, lorsqu'il se retire dans le vertige bref du silence qui s'installe, seul le poème est digne du désespoir. À l'instant où la main tendue se replie sur le vide, au bord de la méprise, je déserte sans conviction. L'infini du ciel s'exténue. J'attends une promesse où m'appuyer pour rendre la vie plus proche. Trop de silence éloigne son écho. Percuté par le silence, je finirai par me taire en perdition dans un angle mort, l'envers du vent égaré sous mes doigts. De l'amour, le passage et la halte, trouble et troublé, sourdine au fond de moi à chaque instant, son revers d'angoisse. L'adieu tapi dans la désolation, prompte à s'enfoncer dans l'envers nocturne, je me déleste du jour naissant en suspens. Au plus fort du silence, il n'y a pas de différence entre la vie et la mort. Je mobilise les pressentiments du désespoir et de l'espérance, sans serment ni artifice. J'entrevois les dédales de l'amour qui doutent de l'amour. Tiendrai-je jusqu'à demain pour livrer mes secrets, traversés d'attente, j'endure une question sans réponse. L'heure présente titube. Dans mon effacement, je sommeille. Au creuset de la vie, un amour existe qui ne vient pas. Ses yeux ne me voient pas. J'aborde l'espérance comme une absente, comme une lumière qui viendrait d'un astre mort. Je meurs de vouloir vivre. Jusqu'à épuisement, je passe mon chemin. Je presse le pas vers l'oubli qui ne s'éteint pas. Je m'absente à son indifférence. Un seul mot dans l'obscurité sans espoir pourrait aider à respirer, calmer le présent hagard. J'attends et j'espère le soleil et sa douceur. Je laisse la fulgurance d'un rire en suspens. Sans avoir dit pour qui se consume l'évanescence de l'amour. Je m'exile du vertige et retourne au silence d'où je viens, hors d'atteinte de la griffure des mots. Je m'absente à son indifférence en un cercle hors de portée. Quand l'épicentre de l'insomnie répète sans relâche les exils du cœur, qu'espérer d'autre que s'effacer du jour et avancer dans le silence d'un visage perdu? Assoufflé contre le vent, je ne réponds de rien, ni de personne. J'appartiens à l'oubli du temps. Si près du bord de n'être plus qu'un souvenir, nulle voix qui me persuade que j'existe, juste quelques paroles au loin, murmurées sur le seuil de l'oubli, si près du bord. Les souvenirs soufflent, leur bourrasque, leur va-et-vient font mal jusqu'aux larmes. Chaque silence répète l'éloignement. La mort déjà sous la peau. Je condamne au silence les larmes de la nuit où brûle l'absence et sa douleur blanche. M'entende qui veut, je n'insisterai pas. Je manque de temps, je vacille. Quand l'alphabet manque et se disperse à tout vent, dans la surdité alentour, j'apprendrai à m'éloigner doucement dans l'argile des sanglots. Je saurai n'être plus qu'une silhouette dans les anfractuosités du souvenir avant de disparaître, enjamber le parapet et sauter dans l'avenir. Dans le silence où se tapit le dernier mot, le dernier pas de la parole, le mot de la fin engloutit l'attente, l'attente, la fin de vie. Mes mots sont tous d'adieu. L'amour engloutit même l'amour. Laisse son cadavre vide. L'illusion est belle. Vaut-elle la blessure qui lui suivra? Être oublié est une autre façon de mourir. Chancelante et transie, à souffler contre le vent, à l'insu des autres, ma musique est silencieuse. J'ai oublier la joie. À Roger Dauthey. Le dernier poème ne sera pas un poème, juste le seuil où prendre l'air une dernière fois, laisser à vif le souffle ardent, comme un essor éphémère inachevé. Ce sera un autre matin, dans le vide infini du silence, un autre matin vide, dans l'infini, le mirage d'un instant définitif. En exergue, il y a ce mot de Virginie Prince, If I die, I die. Je quitterai le lieu. D'où je ne suis pas parti, comme une soif que rien n'apaiserait. Je m'en irai sans prendre congé. Je poserai mes braises, puisque déjà, j'y n'existe, j'y n'existe. Le printemps ne revient pas chaque année de la vie. Un jour, il n'est plus présent dans le jardin clos. L'hiver garde ses plaies. La rive se met à distance. Je m'apprête à prendre le large. Quand le nouveau jour s'efface, je me résous à consentir à la fatigue des mots tremblants, à ne plus espérer, me protéger surtout, avec l'unique force qui reste, un simple effacement dans l'ombre d'une phrase. Les soirs de renoncement, il ne reste à gravir que le deuil du printemps humide et gris, le seuil des jours d'avant qu'on ne reverra plus. J'espérais disparaître dans l'isolement du vent, le resserrement de la solitude. J'ai ressuscité puis je suis morte, insondable, comme un fantôme. Paroles perdues, poèmes des fées, je crains plus les vivants que les morts. je ne m'accommode plus de leurs complications. À qui désormais dire que rien ne me retient? À Guy Alix, que nous saluons. Je rappelle qu'il a, Guy Alix, avec Michel Baglin, a commis un très beau livre sur Georges Brassens. La mort en moi, je choisis le silence pour revivre plus tard, une fois encore. Et je m'effacerai dans l'étreinte de la terre. Il y a une citation aussi qui est une citation assez terrible de Marguerite Duras qui tient apparemment aussi d'une certaine Émilie, elle. Le poème véritable est obligatoirement celui qui a disparu. Terrible. Affolement du sang, avacaise d'amis fidèles. On va finir sur un texte donc de cette dernière partie. L'amitié n'est pas plus fiable que l'amour. La mort sera la seule certitude au cœur de la vie infime. Elle chemine dès la naissance, pourvu qu'elle prenne son temps pour mourir, pour mûrir, pardon, au tournant de nombreuses années, en tout point. Plus fiable que l'amitié. Bon, c'est un poème terrible, excusez-moi, j'ai eu du mal d'ailleurs à le lire et j'ai eu du mal aussi à me décider à faire une émission sur ce livre qui est un livre bouleversant quand même, hein, Affolement du sang de Marie-Josée Christian, dans une langue, vous avez vu, une langue épurée comme ça, qui est terrible, mais qui vous envoie des images et il y a une spiritualité noire peut-être. Mais une spiritualité d'une force éblouissante quand même, là-dedans. Affolement du sang de Marie-Josée Christian, aux éditions Almanach, 19 euros, à lire absolument. Voilà. Eh bien, nous vous disons à une prochaine fois, Claude et moi, et une prochaine émission des poètes, la semaine prochaine, à Dissias.